Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ne pas faire qu'enchaîner en fait les échographies prise de sang, échographie prise de sang, mais se dire j'ai échographie prise de sang, bien-être, échographie bien-être, prise de sang bien-être. Si j'étais riche, je ferais ça quoi, j'empilerais les rendez-vous bien-être.
Dans la PMA, on entend vraiment souvent parler de douleur et du coup, on a l'impression que c'est une maladie en fait. On sait pas quoi faire parce que on n'est pas médecin. En plus, on peut pas se permettre de conseiller, de prendre tel ou tel médicament pour aller mieux. On est
démunis,
ouais, c'est ça.
Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast qui vous parle de parentalité et de maternité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Chaque semaine, je vous amène à la rencontre d'un couple, d'une femme, d'un homme, qui nous raconte leur parcours, en cours ou terminé, et qui nous aide collectivement à libérer la parole autour des questions d'accès à la parentalité et de la fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je vous retrouve donc tous les mercredis pour un nouvel épisode. Alors, pour ce tout premier épisode de la saison 2, nous prenons aujourd'hui la direction de ma chère et tendre Bretagne et j'ai l'immense plaisir de vous présenter un couple aussi pétillant que charmant, j'ai nommé Lise et Benoît. Si Lise a toujours voulu avoir un enfant, lorsqu'elle rencontre son prince charmant, ils décident tous deux de prendre un petit peu de temps afin de s'assurer que leur couple est bâti sur de solides fondations. Lise ne souhaitant pas prendre la pilule ni avoir d'implant et souffrant le martyre tous les mois avec un stérilet de cuivre, elle et Benoît se mettent à la recherche d'un moyen de contraception qui conviendrait à leur couple. C'est ainsi qu'ils s'orientent vers les caleçons contraceptifs, aussi connus comme contraception thermique. Sauf que avant d'y avoir recours, il faut faire un spermogramme de contrôle. Et là, les résultats ne sont pas bons du tout. Si la prise de conscience de ce qui les attendait se fit pour chacun à son rythme, la prochaine étape était-elle toute trouvée? Ils allaient devoir en passer par la PMA et plus précisément par la FIV-ICSI. Dans ce nouvel épisode, Lise et Benoît se livrent sans détour sur leur parcours riche en émotions, mais aussi en prise de conscience. Nous discutons des autres moyens de se faire du bien pour soigner les maux MAUX du corps pendant nos parcours parfois si difficiles, mais également de l'aspect psychologique du couple ainsi que de chacun des individus au sein de la team PMA. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode, alors c'est parti, je vous présente Lise et Benoît. Bonjour Lise et Benoît, bienvenue sur Bonjour. Le podcast, comment allez-vous?
Super.
Ouais. Alors, d'où est-ce que vous nous parlez aujourd'hui?
On te parle depuis Saint-Tré, une petite ville à côté de Rennes.
En Bretagne.
Ah, en France.
La Bretagne.
En Europe.
Je suis bretonne moi-même, c'est important, c'est génial. bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel à témoin. Je suis vraiment très heureuse de donner la parole aux hommes de la PMA aussi. Et vous êtes, au moment donc où cet épisode sera diffusé, le deuxième couple 1 dans la saison 1 et donc le premier couple de la saison 2. Donc, je suis très, très heureuse de faire ça avec vous. Alors, on va parler donc de votre histoire. Avant de rentrer dans les détails de votre histoire, est-ce que vous pourriez vous présenter et peut-être d'ailleurs... On peut faire un petit exercice croisé. Est-ce que Lise, tu pourrais présenter Benoît et Benoît, tu pourrais présenter Lise. Alors, quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'on devrait savoir de vous?
Il va avoir du mal avec moi parce que ma vie, c'est le bazar. Alors, bah, Benoît, il a 29 ans, 28 ans.
Ouais,
29 ans.
Ah bah ça commence bien.
Depuis peu. Non mais c'est parce que ça fait pas longtemps, je me suis pas habituée au changement. Il est aujourd'hui informaticien pour son métier principal et sinon c'est un musicien passionné, batteur. Il est DJ, il joue pour des mariages ou des soirées. Voilà, il aime aussi beaucoup dessiner et puis il est merveilleux.
Wow.
Voilà.
Et alors du coup,
elle
s'appelle Lise, elle a 26 ans, elle est donc musicienne professionnelle, elle donne des cours et puis elle fait beaucoup de tricot, elle a beaucoup de projets à droite à gauche, elle est merveilleuse et je suis très amoureux.
Le décor est planté.
Voilà.
Super.
Bon, super, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? À quand date, remonte, je dirais, le début de votre couple?
Le 27 avril 2016.
Oui, c'est ça.
Voilà.
11h53.
53, on a l'heure précise parce que
c'est vrai.
J'étais allée acheter quelque chose au magasin où Benoît travaillait à cette époque. Et du coup, on a la date d'achat, en fait, avec l'heure.
Du ticket de caisse.
Et c'est écrit, Monsieur Benoît voilà, a vendu tel article à Madame Lise et mon nom de famille. Quoi, voilà. Donc,
c'est
on a
génial.
Vraiment notre rencontre précise.
Ouais.
Et alors, il t'avait vendu quoi?
En fait, c'était moi, c'était dans un magasin d'achat-vente, quoi. Et c'est moi qui lui avais vendu un téléphone, c'était un BlackBerry rose.
Ah oui, ça s'oublie pas.
Voilà, exactement. Et il avait eu un pincement au cœur quand il avait réussi à le revendre parce qu'il avait quitté le magasin.
Oh, c'est trop mignon.
Donc, on s'est rencontrés comme ça et puis on s'est plus jamais quittés. Ça fait 4 ans.
Génial. Mmh. Ok. Ah bah oui, en plus, c'est au moment où on enregistre, c'est votre anniversaire il n'y a pas longtemps.
Mmh.
D'accord, super. Bon, très bien. Et alors, est-ce que l'envie de bébé vous est venue rapidement?
On y pensait déjà. Est-ce qu'on y pensait un peu?
Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un bébé. C'était
ouais.
inscrit en moi depuis toujours. Je crois que dès que j'ai eu 18 ans, en fait, et que c'était raisonnable de le dire, je disais à tout le monde, je veux des bébés. Voilà. Mais j'avais pas encore rencontré l'amoureux pour ça. Et puis, quand j'ai rencontré Benoît, quelques mois, c'était devenu limpide. Donc, j'en parlais à Benoît, je lui dis, voilà, moi, j'ai un désir d'avoir des enfants. C'est quand tu veux, quoi. Du coup, Benoît, lui...
J'y pensais, je me suis dit, je veux avoir des enfants. Après, c'était pas pour tout de suite, mais finalement, avec Lise, j'avais envie plutôt que prévu.
Du coup, on s'était dit, voilà, on a... C'était tout frais entre nous, quoi. Hein. Donc, on s'est dit, on va attendre quelques mois ou un an ou 2 ans pour être sûr de notre couple, quoi, avant de se lancer.
D'accord, ok. Donc, du coup, ça faisait, donc tu dis quelques mois ou quelques années. Vous avez attendu combien de temps, alors, avant de vous lancer dans le projet bébé?
Alors, c'est là où notre histoire est vraiment particulière et c'est un comble parce que on cherchait pour les 6, 8 mois, 12 mois, on ne sait pas trop, à venir où on ne voulait pas tout de suite lancer le projet bébé, on cherchait un moyen de contraception. Moi, j'ai toujours refusé catégoriquement de prendre de la pilule ou les implants ou autres, c'était hors de question pour moi. Et j'avais mis un stérilet au cuivre.
Et c'était douloureux.
D'accord.
Que j'ai gardé pendant 2 ans, ça a été 2 ans de torture.
Ah ouais.
Mais j'avais rien d'autre comme moyen de contraception à part le préservatif, mais le préservatif c'est relou, faut dire ce qui est. Donc voilà. Et puis on a découvert, Benoît a découvert un moyen de contraception destiné aux hommes, c'est la contraception thermique, dont on parle pas beaucoup, mais ça commence à se répandre un peu. Et
d'accord, c'est quoi alors?
Raconte Benoît ce que c'est, ce que tu as expérimenté.
Alors c'est un slip qui permet de remonter en fait les testicules à l'intérieur du corps pour augmenter sa température et ça a pour but d'arrêter la spermatogénèse, du coup stopper la production et donc du coup du coup, c'est contraceptif parce que voilà.
Tu produis plus de spermatozoïdes.
Voilà.
En fait, on porte le caleçon pendant 3 mois, pendant lesquels il faut encore avoir des rapports protégés, donc avec préservatif, si on veut vraiment pas avoir d'enfant.
D'accord.
Et ensuite, au bout des 3 mois, on fait un spermogramme pour vérifier que le spermogramme est bien négatif. Et donc, partir de là, on peut prendre les rapports. On peut avoir des rapports non protégés. Quand le désir d'enfant revient, on arrête de porter le caleçon contraceptif. Au bout des 3 mois d'arrêt, on refait de nouveau un spermogramme et normalement, il est de nouveau positif et c'est reparti pour faire des enfants, quoi.
D'accord, mais écoute, j'ai jamais entendu parler de ça.
C'est assez bloqué tout ça parce que ça, c'est très peu coûteux. En fait, ça fait pas marcher de lobbying de pilules ou autre, quoi. Donc c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ça, mais bon, on commence à voir des vidéos apparaître de témoignages d'hommes qui portent ça.
Et pour moi, personnellement, c'était pas du tout... j'ai essayé, c'est pas du tout gênant. Donc, j'ai étonné que ce soit pas plus développé que ça.
Bah ouais, carrément.
Mais donc,
c'est clair. Donc, ça s'appelle la thermocontraception.
C'est contraception thermique, ouais, c'est ça.
Bon, d'accord, ok.
Quand on va rencontrer le médecin, en fait, pour se faire prescrire cette contraception, Lui, son but, c'est pas du tout de rendre fertiles des hommes à vie, ou voilà. Donc, il prend énormément de précautions. Et donc, les hommes qu'il rencontre avant qu'ils puissent disposer du dispositif, ils doivent faire 3 spermogrammes à tous les mois. 3 spermogrammes sur 3 mois, quoi. Et faire des bilans hormonaux. Et en fait, à ce moment-là, premier spermogramme nous revient de Benoît, négatif, zéro, rien, pas un spermatozoïde. Donc, il nous dit, bon, il peut y avoir des erreurs ou autre, on va refaire un. Donc, un mois plus tard ou quelques semaines plus tard, je ne sais plus, il en refait un. Et là, il y avait, je ne sais pas, 3-4 spermatozoïdes.
Ouais.
Même pas vivants ni rien. Moi, j'ai tout de suite compris et anticipé, j'ai les 3 lettres PMA qui se sont affichées en gros dans mon cerveau. Benoît, je ne pense pas que ça te soit venu tout de suite à l'esprit.
Non.
Et bon, j'ai trop rien dit. Et puis un jour, c'est moi qui ai décroché le téléphone. Et là, le médecin, c'est un andrologue, hein, c'est ça ?
Oui.
Ouais,
oui
l'andrologue appelle et me dit, bon, écoutez, au vu du 3e spermogramme, vous aurez jamais d'enfant de manière naturelle, donc vous pouvez y aller, avoir des rapports non protégés, il n'y a pas de souci. Et en fait, il annonçait ça, pas vraiment comme une bonne nouvelle, mais c'est vrai que nous, on est allé le voir pour avoir une contraception, et finalement, il m'apprend qu'on n'aura pas d'enfant, et là, ça, c'est, je me suis écroulée, quoi.
Mmh. Bah ouais, tu m'étonnes.
Et puis du coup, quand Benoît est rentré, je lui ai expliqué, et je lui ai tout de suite dit, voilà, dans les cas d'infertilité, c'est ça qui se passe, c'est la PMA, c'est une galère. Je savais d'avance, quoi.
Ah ouais, tu connaissais des gens qui étaient passés par là,
oui,
peut-être?
Oui, parce que, enfin, j'adore tout le domaine de la périnatalité. Donc, je lis énormément à ce sujet. Je me documente beaucoup sur ça. Donc, oui, je connaissais déjà ce parcours, quoi.
D'accord. OK.
Voilà.
Bon, donc, du coup, c'est aussi à toi qui est incombé le rôle, du coup, de partager tout ça avec Benoît. Comment est-ce que t'as annoncé ça, Benoît, et comment s'est passée votre conversation, du coup? Comment est-ce que toi t'as pris conscience de ce qui allait se passer, ou est-ce que t'en as pris conscience à ce moment-là d'ailleurs?
C'est vrai qu'au fond de moi, je m'en doutais un petit peu. Je sais pas pourquoi, je sentais que j'étais pas plus viril que d'autres hommes, et du coup je me sentais pas, enfin, pas fertile, en fait, finalement. Donc, au fond, moi, j'étais un peu... je me sentis un peu...
Pas surpris.
Pas surpris. Mais après, c'est vrai que là, plus on avance dans la PMA, plus je me dis, ah mince, c'est pourquoi ça nous arrive à nous. C'est triste, quoi. Mais après, bon, je me dis qu'il y a des solutions, donc qu'on va pouvoir avancer, quoi. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps, en fait, à prendre conscience au début.
Moi, j'essayais de lui expliquer. Je pense que c'était tellement douloureux pour moi. J'ai anticipé, en fait, j'ai anticipé la douleur que j'allais vivre physiquement. J'ai anticipé la douleur qu'on allait vivre en tant que couple de pas avoir d'enfant. Et je pense que du coup, je l'ai ressenti dans mes tripes, et que Benoît ressentait pas du tout ça. Et en fait, tant mieux, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit solide, quoi. Mais du coup, j'avais quand même envie de pouvoir partager ça, en fait, partager cette douleur, parce que porter ça toute seule, c'était trop dur. Alors du coup, je me souviens, ouais, qu'on a eu une discussion, je te disais, mais la PMA, c'est ça, et je lui ai tout sorti, la ponction d'ovocytes, on y va avec une broche dans le ventre. Enfin voilà, et je crois que je t'ai présenté les choses de manière vraiment très glauque.
Ouais.
Et heureusement, la chance qu'on a, c'est que Benoît a un point de vue positif sur les choses en général, donc je pense que j'ai pas réussi à te faire paniquer, tant mieux.
Parce qu'en fait, cet andrologue, quand il vous a appelé, il vous a juste dit, donc, il répondait à ce problème de contraception, mais il vous a pas dit, voilà, si vous voulez avoir un enfant, c'est comme ça que ça va se passer. On vous a juste partagé les résultats.
Mais c'est ça. Moi, je lui ai demandé, en fait, au médecin, mais du coup, si on veut avoir un enfant, faut qu'on fasse une PMA, c'est ça? Et il m'a dit, oui, il faut vous rapprocher du centre PMA qui est près de chez vous. Voilà. Donc,
d'accord.
Donc, pour répondre à ta question du début, en fait, on n'a jamais essayé d'avoir un bébé naturellement, quoi. On n'est jamais passé par cette phase-là. On se dit, mince, ça marche pas.
D'accord.
Donc voilà, il nous a dit de se rapprocher du centre PMA le plus proche. Donc tout ça, c'était il y a pile 2 ans. C'était en mai d'il y a 2 ans. Et 9 mois plus tard, le temps de faire un bébé, on a eu notre premier rendez-vous PMA.
D'accord, donc finalement, même si vous étiez en démarche de recherche de contraception, vous avez décidé de vous adresser à la PMA quand même tout de suite, finalement.
C'est ça, en fait, quand on a su qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant naturellement, on n'a plus jamais pris de contraception. Et c'est devenu l'urgence d'avoir un bébé. Voilà.
Ouais, on voulait pas perdre de temps.
C'est ça.
On voulait profiter de le savoir tôt pour démarrer tout de suite. Quoi.
Parce que on a de la chance. Moi, j'ai 26 ans, donc j'ai des ovocytes tout jeunes. Et Benoît est jeune aussi, donc on a cette chance-là. Et du coup, je me rends bien compte que c'est un gros facteur quoi, qui joue en notre faveur. Donc, je vois pas pourquoi on aurait attendu 2 ans, 3 ans avant d'entamer une PMA. Quoi. Ça aurait été bête, en fait.
Ouais. Donc, donc rendez-vous à la PMA. Donc, 9 mois plus tard, on est début 2019, si mes calculs sont bons.
Oui, c'est ça, en février 2019.
Ok, d'accord. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on vous propose? Comment est-ce que vous êtes pris en charge?
Alors, du coup, donc on arrive au centre PMA, voilà, et on a un premier rendez-vous du coup avec une gynécologue. On lui donne toutes nos analyses possibles qu'on avait déjà en amont.
Tout est spermogramme.
Voilà, c'est ça. Et donc là-bas, là, elle commence à regarder, elle commence à essayer de voir quelles analyses elle peut faire en plus pour essayer de préciser en fait l'infertilité, pour voir si aussi Lise est fertile. Donc c'était vraiment ordonnance sur ordonnance quoi pour des analyses.
Ouais.
Premier rendez-vous.
Et puis surtout, elle nous a tout de suite dit, au vu des spermogrammes, là, ce sera direct FIVICSI pour vous, quoi. Alors moi, je m'étais encore plus renseignée sur la PMA que ce que je connaissais déjà. Je connaissais la FIV, les IAC, enfin les inséminations artificielles, etc. Mais FIVICSI, je connaissais pas. Bon, maintenant, je connais. Et elle nous parle direct. Elle dit voilà, ce sera tout de suite la case FIVICSI ou don de gamètes. Et là, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit « Don de gamète, jamais de la vie !» Et je suis partie fâchée du rendez-vous. Fâchée qu'on m'ait parlé de ça. Ça m'a dégoûtée, en fait, d'imaginer de recevoir le gamète d'un autre homme que Benoît. Et j'en veux pas du tout à la gynécologue. Je pense qu'elle s'est pas imaginée ce qui se passait dans ma tête à moi. Depuis, ça fait 2 ans et... Enfin, un an, ouais. Et j'ai fait du chemin par rapport à ça. Et comme dit la gynécologue, on n'en est pas là, en fait. Elle nous avait présenté toutes les options possibles, mais c'était pas pour dire on les réalise maintenant. Elle, vraiment, ce qu'elle veut, c'est d'abord qu'on essaye en intra-couple, quoi. Donc, on est sorti de là avec, comme dit Benoît, la pile d'ordonnances. Et puis, en sachant que, voilà, ce serait une FIVICSI. Une FIVICSI, mais à condition qu'on trouve des spermatozoïdes chez Benoît. Et du coup.
D'accord, mais justement, c'était ça que j'allais te demander. Puisque si sur les spermogrammes, il n'y avait pas de spermatozoïdes, quelles sont les options, du coup, pour rester intra-couple, comme tu dis?
Alors, après, c'est pas qu'il n'y en avait pas, en fait, c'est qu'il y en avait très peu.
Alors, il y en a, sur les 3 spermogrammes qu'il a fait pour la recherche de contraception, il n'y avait rien d'utilisable, en fait. Par contre, juste après, il a dû refaire des spermogrammes sur Rennes. Là, au fur et à mesure qu'on faisait des spermogrammes, ça s'améliorait un peu.
Et puis, au centre de PMA, ils ont des outils plus précis, donc ils peuvent chercher plus loin les informations.
C'est ça.
Ok. Donc, du coup... FIVICSI par biopsie ou
voilà,
comment ça
exactement.
Se passe
voilà, ouais. Il y a quand même en général pas assez de spermatozoïdes dans les spermogrammes pour faire avec du sperme frais. Donc Benoît a une biopsie testiculaire pile 1 an après la découverte. Sachant qu'avant ça, il avait fait un karyotype pour voir si c'était génétique, mais en fait, on n'a jamais trouvé la cause de l'infertilité.
Voilà,
le karyotype était normal, quoi. Et la biopsie, on a obtenu 5 paillettes. Donc, sachant qu'on a le droit à 4 FIV, c'est bien. Et puis, finalement, pour la première FIV qu'on a faite, on a réussi à faire les embryons avec du sperme frais. Donc,
génial.
Et en plus, il a battu son record de tous les temps. 96 000 spermatozoïdes, on n'avait jamais
non,
eu
mais
ça.
Sérieux? C'est dingue.
Ouais.
Et complètement inattendu, ça, c'est super.
Ouais, c'était la D'accord. bonne nouvelle le matin de la ponction, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. D'accord. Donc, du coup, on vous programme pour cette première chiffre. Donc, la première ponction, tu me disais, c'était en octobre,
voilà,
c'est ça?
Voilà, le 13 octobre 2019, après la batterie d'examen pour moi, dont la merveilleuse hystérosalpingographie.
Ouais.
Mmh. Voilà, donc 13 octobre 2019, je commence la première stimulation que j'ai très mal vécue. Ça a été horrible. J'ai doublé de volume, le ventre douloureux comme jamais, la mauvaise humeur, l'angoisse, vraiment très violente comme stimulation.
Oh merde. Surtout pour la première, c'est vachement dur. Ouais. D'accord. Benoît, t'as essayé de prendre part du coup à ces premiers 15 jours de cycle un peu compliqué en participant, j'en sais rien, au traitement ou enfin comment est-ce que t'as vécu justement les hauts et les bas de ta compagne?
Alors c'est vrai que bah du coup au début du du traitement, en fait on avait eu un rendez-vous avec un infirmier de la PMA qui nous expliquait comment utiliser tel et tel seringue, etc. Et au début, je notais tout, j'étais au taquet. Et puis c'est vrai que le jour où ça arrivait, j'étais finalement pas du tout prêt. Et j'étais pas du tout, je trouve que j'ai pas été très disponible pour Lise. Et du coup, j'ai un peu ramé là-dessus. Et à la fin de ce traitement-là, je culpabilisais un petit peu et en fait, je me suis pas assez investi pour la première et j'ai regretté parce qu'en fait, D'accord. on n'est pas, enfin personnellement moi en tant qu'homme, j'étais pas assez prêt quoi à tout ça.
En fait, je pense que comme je te l'ai dit, ma stimulation, elle a été très très difficile. En fait, j'ai eu énormément de douleurs physiques quoi, vraiment des migraines atroces, des nausées, j'avais envie de vomir tout le temps, enfin, c'était cauchemardesque et je pense que j'avais des grands besoins et beaucoup de difficultés à les exprimer. Et à me faire comprendre et j'étais je pense en détresse quoi, mais que c'était dur à exprimer et que du coup j'ai pas réussi à faire passer mon message à 100% à Benoît et du coup Benoît il a toutes les bonnes volontés du monde. Je pense que voilà, lui était peut-être pas prêt et avait pas compris l'ampleur des besoins que j'avais et moi j'étais pas préparée à bien exprimer ce dont j'avais besoin, donc forcément c'était incompatible quoi. Bon, après, ça me fait mal au cœur de l'entendre dire qu'il a culpabilisé parce que moi, je lui en veux pas du tout. Voilà, c'est exceptionnel. Ce qu'on vit en PMA, c'est du délire, quoi. Donc, ça n'a tellement rien de normal que, voilà, on fait comme on peut.
Donc, du coup, cette première stimulation très compliquée, vous arrivez donc, reprendre dans l'ordre, donc, à la ponction. La ponction, donc on te prélève combien d'ovocytes, tu sais?
8 ovocytes. Il en est resté 6 de bien, de mûrs. Il y en a 4 qui ont été fécondés, 2 embryons qu'on a dû laisser tomber et 2 embryons beaux, un qu'on a transféré en frais et un qu'on a congelé. Donc la gynécologue était un petit peu déçue, quoi, qu'on soit que à 2 embryons.
D'accord.
Et moi aussi, évidemment. Benoît, je ne sais pas si tu te rendais trop compte que ce n'était pas grand-chose, 2 embryons.
Ouais, c'est vrai que quand on voit le nombre de tentatives qu'on peut avoir, finalement, je ne me suis pas trop inquiété. Et finalement, plus on avance, et plus je me dis, mince, on aurait dû déjà avoir le maximum dès le début, en fait, pour maximiser les chances. Et c'est vrai que et là, maintenant, je me rends compte, quoi, c'est contre-coup. Quoi.
Le traitement a été suffisamment compliqué, il y aura peut-être... Enfin, ça peut aussi expliquer des choses. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas médecin. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est
pas facile à expliquer tout ça. D'accord. Donc du coup, on a donc 2 petits embryons qui vous attendent. Vous revoilà donc pour le transfert. Comment ça se passe du coup, premier transfert? C'est quand même super. Super fort comme moment, non? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a une gynécologue à Rennes, je dirais pas son nom, hein, mais qui fait peur à tout le monde. Donc je pense que toutes les Rennaises sauront de qui je parle. Mais vraiment, elle est pas gentille. Et sauf quand elle revient de vacances, pendant 2 semaines après, elle est gentille. Mais du coup, c'est elle qui faisait mon transfert et j'étais pas contente. Et moi, j'ai un...
Parce que tu savais à l'avance qu'elle avait une mauvaise réputation.
Ouais, puis je l'avais déjà eu pour les échos de contrôle et tout, quoi, pendant, pendant la stimulation. Et moi, j'ai ça, le spéculum, ça me fait toujours très mal. J'ai beau respirer, penser à ouvrir et tout, c'est quand même toujours très douloureux. Et là, d'autant plus avec la stimulation où j'avais mal aux ovaires, avec la ponction et tout. Enfin, tout mon ventre était, c'était une douleur, quoi. Et du coup, là, elle met le spéculum et là, j'avais trop mal et je me suis mise à pleurer. Et là, elle me dit, la gynécologue, elle me dit, bah si c'est tant que ça fermait, c'est peut-être significatif. Genre, psychologiquement, je le veux pas, le bébé, quoi.
Mais quelle connasse, excuse-moi.
Ah ouais, non, mais tu peux y aller, quoi. Non. Du coup, je pleurais encore plus. Et donc,
bah, bien sûr, non.
Elle fait le transfert et ils sont partis comme ça. On n'a même pas parlé avec eux ni rien, quoi. C'était trop bizarre comme transfert.
C'était l'usine, quoi.
Ils sont partis et là, je me suis retrouvée qu'avec Benoît. Et puis, on s'est fait un câlin dans la salle de transfert. Et puis là, ça allait mieux, quoi. On est partis à la mer après, l'après-midi. Et là, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, je leur avais pas dit que je faisais le transfert, en fait, ce jour-là. Du coup, je leur ai dit, j'ai un petit embryon dans le ventre et tout. Puis là, ma maman, elle a pleuré et tout.
Ouais, c'était beau.
C'était le beau moment. Ouais. J'ai l'émotion, du coup. Voilà.
Ok. Et justement, d'ailleurs, vous en avez parlé un petit peu à votre entourage. Tu dis, du coup, que tu as annoncé à tes parents, mais du coup, ils savaient que vous étiez en parcours de PMA avant ça, j'imagine?
Oui, en fait, dès que le premier spermogramme est revenu négatif, j'en ai parlé à mes parents. Ma maman est infirmière, donc j'aime bien, quand on a des examens médicaux, échanger avec elle sur ça. Et ils sont pas du tout intrusifs dans notre vie privée, donc ils posent pas plus de questions que ce qu'on leur donne d'éléments, quoi. Voilà, ils se contentent. Mmh, voilà. D'accord. Donc, c'est très agréable de pouvoir parler de ça avec eux. Et du coup, ils ont suivi au fur et à mesure des examens, quoi. Et bon, moi, j'apprécie beaucoup de pouvoir partager ça avec mes parents parce qu'ils sont vraiment à l'écoute et réconfortants. Ils ont les mots, voilà. Et nos amis savent, la famille sait aussi. En fait, il y a un truc, c'est que moi, un peu, enfin, les gynécologues nous disent tout le temps, en PMA, il faut continuer votre vie comme si de rien n'était. Faut continuer à aller travailler malgré la stimulation. Quand on vous transfère l'embryon, faut penser à rien. Enfin, faut surtout pas penser à l'embryon et tout. Et du coup, j'ai voulu m'appliquer ça à fond. Et je suis assez, pas jusque boutiste, mais je suis très perfectionniste dans ce que je fais en général. Et du coup, je crois que j'ai torturé mon cerveau pour ne pas me plaindre, en fait. Je souffrais, mais je me disais, j'ai pas le droit de me plaindre, puisque les gynécologues m'ont dit que j'avais pas le droit de me plaindre, quoi. Donc, du coup, c'est ça aussi.
Alors qu'il n'y a rien de plus légitime que de partager ce que tu ressens, même quand ça va pas.
Je peux dire que pour la deuxième, j'ai pas fait comme ça. Hein. Ouais, là, j'ai ouvert mon cœur. Hein. Ouais, mais donc, je pense, voilà, ça a participé aussi un peu le cauchemar de cette première stimulation, quoi.
Non, mais merci du coup de partager tout ça. Et donc, sur justement le partage, donc au sein de votre couple ou au sein de votre entourage, toi, Benoît, aussi, tu l'as partagé autour de toi ou c'est quelque chose que tu as préféré garder pour toi?
Alors, moi, c'est vrai que, on va dire que je communique pas beaucoup. Donc, c'est vrai que je suis plutôt discret sur ma vie privée. Et c'est vrai que... Bah, c'est bête de le dire, mais c'est vrai que les hommes en général, on n'ose pas trop parler de tout ça avec ses amis. Moi, c'est un peu mon cas, mais c'est vrai que j'ai quand même dit que à mes amis proches que j'étais en parcours PMA et puis à mon travail aussi et puis à une partie de ma famille aussi. J'ai dit que j'étais en parcours PMA, mais ça, sans aller trop dans les détails. Ou alors quand il y a Lise avec moi, c'est vrai que elle me pousse un peu et du coup ça me permet de m'exprimer un peu plus quoi là-dessus, mais c'est vrai que en règle générale, j'en parle pas trop.
OK, très bien. Bon, merci. Alors du coup, donc je reviens à cette fille, donc le jour du transfert, donc tu en parlais donc à tes parents. Arrive du coup 10-15 jours qui sont pas toujours faciles à gérer.
Ouais. Moi ça a été difficile parce que en fait j'ai saigné pendant 15 jours. Je saignais. J'appelais tous les jours le secrétariat PMA et on me disait "Oh bah on sait pas machin, enfin c'était mais elle a été gérée n'importe comment, cette fille. Je comprends pas parce qu'on est dans un super centre PMA et la deuxième stimulation a été exemplaire dans son déroulement, quoi.
D'accord.
Et je comprends pas ce qui s'est passé avec cette première FIV, mais vraiment, ça a été le bazar, quoi. Et donc, ouais, ça saignait beaucoup. C'est ce mélange de sang marron et frais, là, qu'on a en stimulation. Et c'était tous les jours, quoi. Et bon, on n'expliquait pas. On disait, bah, c'est les résidus de la ponction. Voilà. Au bout de 2 semaines, ça saignait toujours. Du coup, on m'a dit, bah, c'est tes règles qui reviennent. Je dis, oui, mais bon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles sont arrivées depuis 15 jours déjà, les règles. Enfin, bon. Donc, je fais la prise de sang. 308 de bêta-HCG, donc un bon taux, quoi.
Ouais, c'est quoi les... Tu te souviens de la fourchette à partir de laquelle on considère que la HCG est positive?
Le premier mois de grossesse, c'est entre 0 et 700, je crois. En fait, à partir D'accord. du moment où c'est ouais, au-dessus de 5, c'est qu'on est enceinte.
Mm-hmm. D'accord.
Voilà.
Donc, on était super, là.
Bah, même pas, okay. parce qu'en fait, ça saignait tellement. Et c'était pas bon signe que du coup, on s'est même pas réjoui. Il fallait attendre de voir si le taux allait doubler. Donc, 2 jours plus tard, on refait la prise de sang, 700 mm-hmm. bêta-HCG. Donc, on avait plus que doublé. Bon, bah, cool. Sauf mm-hmm. que ça continuait à saigner. Mm. Plus des douleurs pour moi, de règles et tout, quoi. Et il y a la troisième prise de sang, qui est à J20, je crois. J'étais à 1108. Et là, on se dit, tiens, c'est pas... Enfin, on devrait être à plus, quoi. Là, ça a commencé à mettre la puce à l'oreille. Et ce qu'on craint beaucoup en FIV, c'est les grossesses extra-utérines. L'embryon qui va se loger dans une trompe ou ailleurs. Donc là, tout de suite, on commence à me parler de ça. Donc là, je me colle l'angoisse de la grossesse extra-utérine. Où là, pareil, Benoît avait jamais entendu parler de ça. Donc... je dis, bah, c'est simple, c'est un embryon qui va dans une trompe, et puis après, il y a la trompe qui explose, et puis du coup, tu peux plus avoir d'ovocytes.
Le film d'horreur.
Voilà.
Ouais.
Et du coup.
Tu partages souvent des scénarios catastrophiques, quand même, avec le pauvre Benoît. Ouais. Heureusement qu'il est positif.
C'est ça.
Oh là là. Et puis, on attend les codes datation. Dans le centre PMA, ils me disent, il n'y a rien à faire, de toute manière, voilà, on est obligé d'attendre, parce que si on fait une écho avant, on ne verra rien, quoi.
Oui.
Donc, non, je me trompe.
Toujours
on
la
a
trompe,
fait, quoi. Avant l'écho de datation, une écho pour vérifier qu'il n'y avait rien dans les trompes. Et là, on a vu un tout petit point noir, c'était genre 5 jours avant l'écho de datation. On a vu un tout petit point noir dans l'utérus. Donc, à partir de là, on a éliminé la potentielle grossesse extra-utérine.
D'accord, bon, tant mieux.
Mais par contre, ils disent, bon, par contre, c'est tout petit, hein, pour 3 semaines déjà de grossesse, c'est tout petit, quoi. Mais
ah
bon,
oui, c'est vrai, je me souviens, ouais.
Mmh. Ah, ils considéraient que c'était déjà petit pour la date de conception, d'accord.
Mais ils disent, bon, voilà, merci. C'est comme ça, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc la réponse, c'était, on ne sait pas, personne ne sait, donc il faut attendre, ok. Et donc, le 6 décembre, là, on va faire la vraie écho de datation. Et ça faisait une semaine que j'avais plus trop de saignements et plus trop de douleurs. Donc là, je commençais à y croire.
Mm-hmm.
Vas-y.
Non, je dis, dans la PMA, on entend vraiment souvent parler de douleurs. Et je trouve que c'est assez on n'est pas prêt, en fait, à tout ça. Mm. Et du coup, on a l'impression que c'est une maladie, en fait. Du coup, vas-y, excuse-moi de t'avoir
coupé. Non, mais c'est intéressant, continue. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah, c'est vrai que, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de douleurs pour la femme. Donc, j'étais pas prêt, quoi, à tout ça.
Tu te rendais pas compte de ce dans quoi vous vous embarquez, quoi.
Ouais, bah oui. Ouais.
Et je pense que ça lui faisait mal au cœur de me voir souffrir physiquement, quoi.
Bien sûr.
On sait pas. En plus, on sait pas quoi faire parce que on n'est pas médecin. En plus, on peut pas se permettre de conseiller, de prendre tel ou tel médicament pour aller mieux. On sait. En fait, on est.
Tu te sens démunis.
Démunis, ouais, c'est ça.
Pour reprendre du coup le 6 décembre écho de datation. Et là, on voit un beau sac gestationnel avec le début de cordon et tout, mais on ne trouve pas d'activité cardiaque. Et là, ça a été super dur. Quand je suis sortie de la salle, je crois que j'ai crié, j'ai hurlé dans la rue, je crois, de douleur morale, quoi. C'était, ouais, j'étais inconsolable.
En plus, la veille, tu avais la sensation d'avoir perdu quelque chose.
La veille, j'ai eu un moment trop bizarre. On va me prendre pour une folle, je suis quelqu'un de très terre à terre. Mais du coup, j'ai vraiment vécu ça. Mais j'étais allongée sur mon lit parce que j'étais fatiguée. Et je regardais le plafond, je faisais rien, j'écoutais pas de musique, rien du tout. Et je me suis sentie partir. Et j'ai senti qu'en moi, j'avais le choix entre la vie ou la mort. C'est trop bizarre. Ah ouais, je peux rien expliquer de plus que cette sensation-là.
Et comment est-ce qu'on ressent ça?
Ouais, c'était fou.
Enfin, qu'est-ce que tu ressens pour te faire interpréter ça ou...
Bah, c'est juste j'avais la sensation en moi de pouvoir choisir de la sensation de la vie ou la sensation de la mort. Wow. Et ça, j'ai plané peut-être pendant 30-40 minutes comme ça. Et après, un moment, Benoît est monté. J'ai entendu ses pas dans les escaliers et je suis sortie de ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé?
Et je sais pas. T'es jamais arrivé avant, un truc comme ça?
Jamais, non, non. Je sais pas si je t'en ai parlé.
T'es pas particulièrement spirituelle ou...
Non, 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 pas particulièrement. Je suis pas croyante ni rien.
Putain, c'est dingue.
Trop bizarre. Et même ma maman, qui est très, très terre à terre, je lui en ai parlé. En me disant, elle va sûrement se moquer de moi, mais non, elle s'est même pas moquée de moi, parce que je crois que c'est pas drôle, en fait, comme truc, mais ouais, c'était...
Non, mais c'est une expérience incroyable, quoi.
Ouais, ouais, surtout quand on sait que, voilà, c'était le lendemain, c'était l'écho de datation, et qu'en fait, je portais un embryon mort, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc, ça a pris du sens le lendemain, quoi.
Ouais, c'est ça. D'accord.
Donc, trop bizarre. Donc, voilà, et du coup, juste en sortant de l'écho de datation, la sage-femme me dit, aller quand même faire une prise de sang de bêta HCG pour voir si c'est redescendu, quoi, déjà, les bêta HCG, au moins, quoi. Du coup, ça a été l'enfer. J'étais dans le labo en pleurs inconsolables à attendre ma prise de sang. Ouais. L'infirmière préleveuse, faut pas pleurer, madame. Je viens d'apprendre qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. Oui, mais vous aurez d'autres chances et tout.
Et vous êtes jeune.
Vous êtes jeune et tout ça. Mais tais-toi, je veux juste rentrer chez moi.
Ouais. Mais les pauvres infirmières aussi, enfin, ouais, tu vois, je me dis, elles veulent dire quelque chose, tu vois.
C'est ça.
Elles veulent aider. Je remets bien sûr pas aucunement en cause ta douleur, hein, mais elles veulent dire quelque chose, mais en fait, finalement, peu importe ce qu'elles vont dire, ce sera à côté, quoi.
Mais c'est ça.
Ce sera à côté de la place.
C'est ça, mais c'est comme tout.
Elles connaissent pas toute ton histoire et c'est, toujours maladroit.
Mais c'est tout le monde, en fait. Tout le monde autour de toi, en PMA, veut dire quelque chose de gentil et c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'on est entouré de gens qui veulent être gentils. Mais c'est souvent tellement maladroit, comme là, par exemple, on a eu un échec de tentative pendant le confinement, là. Et tout le monde disait, vu le coronavirus, c'est mieux que ça n'ait pas marché. C'est là. Non, en fait, je veux dire, autour de moi, il y a plein de femmes qui accouchent pendant le coronavirus, qui tombent enceintes pendant le coronavirus et tout. Et tu leur dis pas qu'elles feraient mieux de perdre leur bébé parce que c'est le coronavirus, quoi.
C'est parce que
les gens ont besoin de dire quelque chose.
Je peux dire quelque chose. C'est ça. Ouais.
Mais ça va, j'ai pris du recul sur ça. J'essaye de pas écouter le contenu qu'ils disent. Je me dis, ils sont juste en train de dire quelque chose avec gentillesse. C'est ça qui compte.
Bienveillance. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais, non, mais t'as raison. C'est bien, t'as pris du recul, j'ai dit ça. D'accord.
Carrément. Je suis moins glauque maintenant.
Oh là là là, d'accord. Donc, du coup, on est donc,
le 6 décembre.
Avant les fêtes.
C'est ça. Et du coup, je préviens le centre de PMA et ils me disent, on va suivre l'évolution de la fausse couche, quoi. En espérant qu'elle se fasse toute seule pour pas avoir à faire de curetage ou autre. Là aussi, j'ai expliqué à Benoît ce que c'était un curetage.
Ouais. Peut-être que je l'ai effrayé encore.
Épisode 2 de la série
Noir.
D'horreur.
Donc là, je faisais régulièrement des échographies. Il y a un truc qui m'a trop fait mal au cœur. C'est un moment, la gynécologue, elle me dit là, c'est bien parce que l'embryon, il s'est bien aplati, donc il va descendre tout seul. Et moi, j'imaginais
mon
embryon tout plat. Non. Oh mon Dieu.
Les détails.
Ouais. Et du coup, par contre, elle dit non, mais il reste trop de résidus embryonnaires, etc. Donc, on va te donner le médicament qu'on donne pour les avortements médicamenteux, quoi. Et là, ça a été une nuit de cauchemar. Je crois que Benoît et moi, on n'avait jamais pas dormi dans le même lit, sauf quand on était en voyage séparément ou autre, mais voilà.
Ouais.
Et là, ce soir-là, je lui ai dit, va dormir en bas, je vais souffrir toute la nuit et voilà, quoi. et je veux être toute seule.
C'est
quoi.
Que t'aies pas voulu être soutenue, tu voulais vivre ça toute seule, quoi.
Bah, en fait, je voulais qu'il dorme.
Ouais.
Parce que moi, je pleurais de douleur, quoi. Mais c'est horrible, oh, cette douleur. Et on m'avait dit, ça m'a saoulée. C'est comme pour l'hystérosalpingographie, où on ose nous dire que c'est la douleur des règles. Alors peut-être que pour certaines femmes, c'est comme ça, mais Dieu soit loué qu'il y ait certaines femmes pour qui ça se passe bien. Mais il faut arrêter, c'est quand même pas la majorité, je crois, hein, vu les témoignages. Ouais. Et pareil, ce médicament-là d'avortement ou de fausse couche provoquée, je crois que ça a été la pire douleur de ma vie avec l'hystéro.
Ouais.
C'est vraiment que j'ai cru mourir quoi, dans mon lit. Voilà. Wow. Et j'ai saigné comme ça pendant 1 mois et 10 jours, en fait, du début de mes saignements après le transfert, là, jusqu'à la fin de cette fausse couche, quoi.
D'accord, donc ça fait 7 semaines
Ouais, donc je l'ai porté, l'embryon, c'était 7 semaines aménorrhée.
C'est ça, d'accord.
Voilà.
Ok.
Voilà, bon. Fin de cette première FIV.
Ouais, d'accord, donc une FIV douloureuse sur tous les plans. Et,
c'est ça, à l'opposé de la suivante qu'on a eue.
Ah, alors, bah, racontez-moi, donc du coup, le centre de PMA se tourne rapidement vers la suite.
Bah, c'est ça, il nous restait un embryon congelé.
D'accord, voilà. Ok. Donc du coup, c'est pas une nouvelle FIV, mais c'est un nouveau transfert.
Exactement, c'est ça, avec une petite stimulation.
D'accord.
Préparer le terrain, quoi. Et puis 2 semaines plus tard, trois semaines, parce que j'ai pas répondu hyper intensément aux médicaments. Donc, on avait prolongé d'une semaine.
Ils ont adapté, justement, le traitement, comme ça avait été tellement douloureux la première fois?
Bah non, même pas, parce qu'ils peuvent rien faire, en fait, pour ça, quoi. Donc, du coup, on a commencé la deuxième FIV le 11 février 2020. Et j'ai eu le transfert d'embryon congelé le 3 mars, donc une semaine avant l'annonce du confinement. Et là, c'était un super moment avec une gynécologue que j'aime bien. Benoît était détendu, moi aussi. On a bien parlé avec la gynécologue et l'infirmière biologiste qui était là. On a pu poser plein de questions. Ils ont pris leur temps. J'ai pas eu mal avec le spéculum.
Génial, une super expérience du coup là par rapport à la première fois, comme tu disais. Ouais.
Un vrai bon transfert. Et puis le 16 mars, je fais la prise de sang et c'était négatif. Donc ça n'a pas marché une deuxième fois. Très très dur.
C'est pas resté aussi longtemps quoi. Finalement, en fait, quand on pense que ça marche pendant un moment, c'est.
Moi j'étais plus confiante sur cette deuxième FIV, j'avais l'impression que ça marchait quoi.
Mmh. Ouais, non, c'est hyper dur, quoi, parce qu'on a envie d'écouter notre corps, et puis des fois, le corps, il nous dit ce qu'on a envie d'entendre, et
ouais,
puis inversement,
exactement.
Enfin, c'est hyper dur, quoi, ces moments-là.
C'est très juste.
On interprète
dis,
tout ce qu'on ressent. Et...
C'est très, très juste que tu dis qu'on nous rabâche tout le temps un peu dans cette période d'être à l'écoute de son corps et tout. Et c'est génial, hein. Ça va dans le bon sens, je pense, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, par exemple de la PMA, ouais, moi je pense que, enfin là par exemple, moi chaque mois qui passe, je suis persuadée d'être enceinte.
Elle
c'est
a fait
galère.
Son stock de
tests de grossesse. Parce que j'en ai marre de croire que je suis enceinte tout le temps, quoi. Comme tu dis, on veut tellement être à l'écoute de son corps et en même temps, on se dit, si je suis à l'écoute de mon corps et que je suis enceinte, je dois ressentir ça. Et du coup, on ressent ça, même si ça n'existe pas, quoi.
C'est ça, la méthode Coué.
Ouais, c'est ça.
C'est clair, c'est dur. Moi, c'était pareil, hein, je comprends tout
c'est
à
vrai,
fait ce que tu dis.
Donc, voilà. Mais par contre, il y a quelque chose qui est super dans notre centre PMA, c'est qu'il y a une psychologue de PMA. Et
d'accord.
Elle est géniale, elle est trop mignonne. Et je suis allée la voir après ma première fausse couche. Et c'est grâce à elle que j'ai retrouvé la joie de vivre. Et j'avais parlé justement avec elle de ça, de où placer le curseur dans l'espoir, quoi. Parce qu'on nous dit, il faut toujours continuer à espérer, même d'avoir un enfant de manière naturelle et tout ça. Mais je lui disais, mais des fois, l'espoir, il me bouffe, en fait, quoi. Parce que je vais être déception en déception. Ou alors, par exemple, pour ma première fille, à l'inverse, j'étais désespérée. J'y croyais pas tellement, quoi. Du coup, elle me disait, mais vous pouvez pas faire une PMA sans espoir, ça a pas de sens en fait.
C'est vrai.
Du coup, voilà, j'avais travaillé avec elle un peu sur ça, sur où placer le curseur. Et pour ma deuxième FIV, j'étais plutôt contente de ça, quoi. J'ai pas fait les montagnes russes de l'espoir et du désespoir.
T'étais plus armée psychologiquement, quoi.
Exactement. Et j'ai eu moins mal aussi, forcément, parce que là, on cherchait pas à produire des ovocytes, quoi.
Mais c'est super intéressant. Et alors, donc, tu disais que tu as été suivie côté psy, donc entre ces deux fives. Et toi, Benoît, est-ce que tu as eu le besoin d'en parler? Que ce soit à un professionnel. Je sais pas, je me demande en fait comment est-ce que vous vous êtes fait accompagner, si vous vous êtes fait accompagner, ou est-ce que vous vous êtes auto-accompagné entre ces deux essais, et peut-être justement dans le futur pour la suite de votre parcours.
Là, finalement, si on veut être accompagné, il faut que ça vienne de nous en fait. Et donc moi, pour ma part, j'ai profité qu'il y ait cette psychologue au centre PMA pour pouvoir extérioriser tout ça et l'exprimer à quelqu'un d'autre que Lise.
A beaucoup aidé. Couple ou individuellement?
Individuellement.
D'accord.
En fait, je pense qu'il y a tellement de couples en PMA qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Personnellement, je me sens pas assez accompagné. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait beaucoup de qu'ils soient occupés, quoi. Donc, du coup, ils n'ont pas le temps de s'occuper
des questions de tout le monde.
Ouais,
c'est vrai qu'on a souvent, on a des questions quasiment tous les jours, hein, sur la PMA quand on est en train de le vivre. Tiens, il se passe ça, c'est quoi? Et des fois, c'est des petites questions, mais dont la réponse nous ferait du bien. Mais on se dit, je vais quand même pas appeler le secrétariat pour ça, quoi. Et bon, moi, j'ai pas trop envie de faire mes recherches sur Google parce que ça me paraît pas être la bonne idée. Du coup, c'est vrai qu'on reste quand même avec beaucoup de questions sans réponse, qu'on note, et puis quand on a la gynécologue sous la main, on lui déballe toutes nos questions, mais on a peur de lui faire perdre son temps et tout. Alors c'est vrai que c'est... Moi, je rêverais d'avoir vraiment une personne dédiée à mon accompagnement et à notre accompagnement. Je sais pas, qu'on puisse avoir un rendez-vous une fois par mois, même si on n'est pas en stimulation ou autre, quoi. Mais pouvoir rencontrer quelqu'un et dire, bah là, on en est à ça, il y a ça qui est prévu, j'ai eu tel rendez-vous, etc. Ça peut permettre de faire des bilans, mais à quelqu'un d'autre qu'à soi-même ou à son compagnon, quoi.
Bien sûr.
J'aimerais bien.
C'est une super idée, ça. c'est une super idée, ouais. D'accord. Okay. Du coup, là, au moment où on enregistre cet épisode, on est donc deux mois donc après ce second transfert. Comment est-ce que vous envisagez la suite de votre parcours? Est-ce que votre centre de PMA d'ailleurs vous a réouvert d'ailleurs, et voilà, qu'est-ce qu'on vous propose pour la suite?
Ouais. Alors la suite, donc là le centre a réouvert, mais pour les transferts d'embryons congelés uniquement. Parce que tout le matériel qui sert pour les ponctions est occupé en ce moment en réanimation, quoi. Donc pas de ponction. Du coup, moi, je rattaque une stimulation en vue de faire une ponction en septembre. Voilà, j'étais un petit peu déçue, j'aurais aimé faire ça dans l'été. Et puis finalement, je me dis que je vais passer un bel été sans stimulation, sans rien, où je serai en forme pour profiter, aller à la mer et tout ça. Donc voilà, je vais en profiter pour vraiment... me relaxer. Voilà.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, donc on a eu un rendez-vous en visioconférence avec la gynécologue. Et puis, elle commence par dire, vous avez eu mal pour votre première stimulation? Je dis, ah ouais, beaucoup et tout. Elle dit, ah ouais, oh, je suis désolée, mais on va augmenter les doses pour la suivante. Là. Voilà, donc elle dit, ouais, là, faut qu'on augmente, faut qu'on obtienne plus d'ovocytes que la dernière fois, quoi.
D'accord.
Du coup, je lui ai dit, mais je vais aller ranger où les ovocytes dans mon ventre, quoi. L'autre fois, j'ai une photo de moi, on dirait que je suis enceinte de 6 mois, quoi.
Ah ouais.
Mon ventre était devenu gros et dur. j'ai quelques appréhensions pour cette prochaine stimulation. Bah, déjà, parce que j'ai pas un bon souvenir de la première.
Bien sûr.
J'ai peur de l'anesthésie générale aussi. Ma gynécologue, elle préfère pas que je le fasse sous anesthésie locale, parce que vu que j'ai un utérus qui est quand même très qui est très perméable à la douleur, du coup, elle m'a dit, franchement, faites pas votre ponction sous anesthésie locale, vous allez trop souffrir, quoi.
Ah, peut-être que c'est une bonne idée. Je comprends effectivement que ce soit un peu effrayant.
J'aime pas du tout l'anesthésie générale. Quand je me réveille, d'accord, je suis dans le gaz et je trouve qu'on a la douleur qui nous saute au visage, alors que sans s'y préparer, du coup, l'intensité surprend. Moi, ça fait que je me tends et tout. Mais après, je me dis que sachant tout ça, j'ai des outils pour m'y préparer. Dans notre centre PMA, ils proposent de l'acupuncture, donc je vais faire ça. Je vais continuer le suivi avec la psychologue dès que j'en ai besoin. Et puis, j'ai découvert les massages. J'avais jamais fait de massage avant. Et à Noël, après ma fausse couche, j'avais demandé à ma famille, en cadeau de Noël, qu'on m'offre un massage. Et ma tante avait entendu mon appel. Et ils m'ont offert un massage d'1h30.
Et,
ça a été un moment de bien-être. En fait, j'avais eu mal au corps pendant 2 mois.
Ouais.
Comme mon corps était une douleur, et là, ça m'a tout changé. Donc, si vraiment je peux encourager les nanas en PMA à faire des massages, mais allez-y.
C'est clair, c'est une très bonne idée.
Ah ouais.
Et comme tu dis aussi, ça permet aussi de se réconcilier peut-être un peu avec son corps et de.
Ouais, c'est ça. Et puis de se faire toucher le corps aussi pour autre chose que des échographies pelviennes.
Ouais, bien sûr, tout à fait.
Voilà, c'est un toucher différent, quoi.
Ça c'est sûr. Est-ce que donc tu dis l'acupuncture, et justement j'allais te demander, est-ce qu'il y a d'autres approches que vous avez peut-être considérées, ou des choses dont vous ne voulez pas entendre parler, donc qui pourraient être disponibles pour vous aider à vivre le parcours, à préparer ton corps pour le parcours? Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu as regardées à part ça?
Ouais, bah moi j'ai ma maman est infirmière, elle a une amie infirmière elle qui s'est formée au shiatsu. Donc j'ai fait une séance de shiatsu en février avant mon transfert d'embryon en fait.
D'accord.
Congelé. J'ai fait ça, voilà, et puis sinon oui, moi je suis.
Et t'en as pensé quoi? Ça t'a plu?
Ah ouais, bah pareil, c'est du papouillage, donc ça fait du bien. J'ai pris goût au massage, hein, comme tu peux le constater.
Tu peux, mais t'as tout à fait raison, t'as le goût, voilà, des bonnes choses. Tu peux décrire ce que c'est d'ailleurs le shiatsu? Je pense pas que tout le monde connaisse.
Bah, j'ai pas trop cherché dans les détails, mais je crois que c'est des points d'appui et de massage pour libérer ou les énergies ou les chakras. Enfin, c'est pas tellement les mots qu'elle utilise. C'est une infirmière qui est très terre à terre et qui fait du shiatsu. C'est rigolo parce que on penserait pas forcément que ce soit compatible, mais ça l'est.
Ouais.
Et voilà, elle me disait, bah par exemple, j'ai bien débloqué au niveau du bassin. Je crois qu'elle m'a pas trop expliqué de choses. Je me suis laissée aller entre ses mains et laisser la magie, okay, opérer, quoi. Après, moi, je suis très ouverte à tout, en fait, tant que ça peut faire du bien, quoi. Je pense que si j'étais riche, je ferais tous les trucs comme ça, tous les trucs un peu parallèles, quoi.
Ouais.
Ce qui me retient de le faire, en fait, c'est l'argent. C'est que ce sont que des choses qui sont pas remboursées. Et du coup, c'est ça qui bloque, parce que la séance d'ostéopathie à 50 euros, le shiatsu à 40, enfin, voilà, ça fait vite beaucoup, ouais, d'argent, quoi. Donc, et j'ai fait une séance d'ostéopathie aussi avant le transfert. Pareil, c'était bien.
D'accord.
Voilà.
Et l'ostéopathie, c'est pris en charge par, c'est pas pris en charge en France par, ou les mutuelles peut-être, mais
ouais,
pas la sécu.
Moi, ma mutuelle, ça
dépend,
même pas,
ouais,
ça.
Ça dépend. D'accord. Des mutuelles, ouais.
Par contre, là, l'acupuncture, okay, okay, au centre PMA, ce sera pris en charge. Comme la psychologue,
super.
C'est quasiment pris en charge. Il nous reste 20 euros à payer.
Donc, ouais,
super. Donc, d'accord.
Voilà. C'est pas du tout les prix des psychologues, okay, habituellement, quoi. Donc, c'est chouette.
Bien sûr.
Mais ouais, moi, je serais vraiment pour. En fait, la PMA, c'est l'attente. Hein. Je crois que vraiment, c'est un synonyme.
Patience et maître mot.
C'est ça. Et du coup, en fait, de placer des rendez-vous un peu bien-être comme ça, peu importe le contenu du rendez-vous, ne pas faire qu'enchaîner en fait les échographies prise de sang, mais se dire j'ai échographie prise de sang bien-être, échographie bien-être, prise de sang
c'est
bien-être.
Ça.
Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je te dis, si j'étais riche, je ferais ça, quoi. J'empilerais les rendez-vous bien-être.
Non, mais t'as raison. Et puis c'est pas accessoire, quoi.
Non.
Finalement, ton corps, c'est ton meilleur allié, quoi, dans tout ça, avec Benoît, bien entendu, mais c'est ton corps quand même qui subit tout ça. Donc, si t'as moyen de pouvoir prendre soin de ton corps et le chouchouter un peu pour qu'il tienne la distance, bien entendu. Puis après, ouais, d'accord. Enfin, après, j'allais te demander, peut-être que t'as regardé autrement, peut-être des choses qui sont peut-être moins chères, comme tu parlais des prises en charge qui sont pas toujours, financièrement abordables. C'est le yoga aussi, la fertilité. Je sais pas si c'est un truc qui t'intéresse ou si t'as testé, mais il y a souvent des cours en ligne sur YouTube. Je sais qu'en tout cas, aux États-Unis, c'est très très populaire.
Ben, moi, je fais du yoga depuis début septembre.
D'accord.
Dans ma commune, en fait, il y a un cours de yoga qui est donné par une association. Tous les lundis soirs, et du coup, la prof de yoga, elle est au courant de mon parcours, donc du coup, elle adaptait les séances à moi. Bon, là, avec le coronavirus, il n'y a plus de yoga, mais voilà, elle adaptait les séances pour moi quand j'étais en stimulation ou autre, et le yoga, c'est ce qui m'a permis de tenir le coup pendant la première stimulation. C'était vraiment salvateur, quoi. Donc, je ne fais pas du yoga précisément pour la fertilité, mais je fais du yoga...
Pour ton bien-être global, quoi.
Voilà, c'est ça. Et par contre, si plus je fais du yoga, plus j'entre facilement en méditation. Je fais toujours un peu de méditation à la fin de ma séance de yoga, parce que j'en fais chez moi aussi. Et ça m'a beaucoup aidée pour l'anesthésie générale de la ponction. Où, je me suis mise en méditation dès que je suis rentrée dans la salle d'opération. Et je pense que l'anesthésiste, il l'a compris, parce qu'il ne m'a pas parlé ni rien. Et, il a vu que j'étais complètement partie, quoi. Et du coup, je ne me souviens même pas avoir été endormie, ni par le masque. Je n'ai même pas senti l'injection, ni rien, quoi.
C'est génial.
C'était trop bien. Et j'avais raconté à Benoît.
Le pouvoir du mental, c'est dingue.
J'avais raconté à Benoît mon rêve que j'ai fait un peu de méditation. Et c'était du gros délire,
De quoi? Tu peux nous dire ou tu te fais?
Là. Mais tout le monde va me prendre pour une folle. C'est la musicienne.
Non, un rêve,
Paris,
un rêve, c'est normal.
Non, en fait, j'imaginais que j'étais dans une prairie magnifique où il y avait un petit ruisseau qui s'écoulait au milieu avec des grosses pierres blanches un peu autour. Donc, je marchais pieds nus dans l'herbe et puis à côté du ruisseau, il y avait un énorme chêne magnifique. Et je me suis approchée tout doucement du tronc et je me suis posée le ventre, le corps face au tronc, quoi, collé au tronc. Et petit à petit, je suis rentrée dans le tronc et il s'est complètement enserré autour de moi avec ses lianes, quoi, ou ses racines. Et, et du coup, j'étais un peu paralysée par la sève. Il n'y a même pas de sève dans un chêne, je crois. Hein, mais... mon papa est paysagiste, il me corrigera. mais du coup voilà, et j'étais enserrée comme ça, et en fait en salle de réveil, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu que j'étais en salle de réveil, dans ma tête je venais d'être libérée par le tronc, quoi. Je me suis vue ressortir du tronc où les lianes se défaisaient de moi et ressortir comme ça. Et j'ai ouvert les yeux et j'étais en salle de réveil. Et c'était trop drôle, cette salle de réveil, parce qu'il y avait, deux enfants qui avaient été opérés. Et du coup, ils amenaient des cadeaux aux enfants en salle de réveil. Et un enfant, il disait, non, moi, je veux pas de cadeaux. J'aime pas les cadeaux, moi. Et l'infirmière, elle était trop désemparée parce que ça devait être la première fois qu'il y avait un enfant qui refusait un cadeau. Voilà. Après mon réveil.
D'accord.
Bizarre et rigolo.
En douceur.
C'est ça.
D'accord. Ok. Et j'allais te demander, vous êtes tous les deux musiciens, vous me disiez tout à l'heure en introduction. Est-ce que, je sais pas, il y a des chansons, des musiques qui vous aident l'un et l'autre ou collectivement à déconnecter ou inversement à reconnecter à votre parcours, à votre corps, à tout ce qui se passe?
T'as une idée, toi?
Est-ce qu'il y a des chansons? Oui, y a, nous, on est fans d'un artiste, du coup, d'Evendra Bellert, c'est ça? Ouais, c'est plutôt de la folk, et je trouve que ça permet de se poser tous les deux.
De se détendre.
Ou alors tout ce qui est musique soul, de trouver un moment tous les deux et...
Mais on écoute beaucoup,
Bah, en fait, on écoute beaucoup de musique.
On a souvent les mêmes goûts. Après, on fait pas tellement de musique ensemble. On en a fait un petit peu pour s'amuser, d'accord, là, pendant le confinement, mais bon, on écoute beaucoup la musique ensemble. On fait de la danse aussi ensemble. On a commencé les cours de lindy hop. La danse qui...
C'est quoi, ça?
C'est une danse qui précède le rock'n'roll, en fait.
Ah, ok. Voilà.
Et du coup, ça, c'était super cette année d'avoir les cours de lindy hop. Ça fait une belle parenthèse dans le parcours PMA, quoi, qui prend quand même énormément de place dans notre quotidien. Voilà, ouais, ce que la musique peut nous apporter.
Ouais. Et je me souviens que Lise avait créé une playlist pour le transfert, enfin une playlist d'un morceau.
Ah oui.
Et du coup, elle l'avait préparé pour le transfert. Et...
Ah oui, c'est vrai.
Play.
C'était quoi comme morceau déjà?
Bah, je l'ai là, c'est Devendra Bennart et c'est le morceau, c'est Memorial.
Ah ouais, allez écouter ça alors.
Voilà, c'est le morceau du deuxième transfert de Lille.
C'est ça, j'avais gardé un écouteur en fait.
Ah, super.
Mais tu vois, je m'en souvenais plus, t'as bonne mémoire. Hein. Moi, pourtant, c'était pour le transfert, le deuxième, là,
le deuxième, de
mars. Ouais, j'avais gardé un écouteur dans l'oreille pour avoir une musique que j'aimais bien pendant le transfert, c'est vrai.
Super, bon, bah écoute, c'est top. En musique, moi je sais qu'il y en a une que j'aimais beaucoup, mais qui me faisait pleurer à tous les coups, c'est... Alors, j'ai pu retrouver...
De toute manière, enfin,
c'était pas forcément la musique. Ouais, c'est clair. C'est clair, il faut savoir que c'est normal et que c'est pas grave
c'est
de pleurer.
Vrai.
C'est une chanson... Oh, je vais te dire des bêtises. 28 jours, d'une nana des Brigitte. Tu vois, c'est vachement vague, hein, ma description, ça te dit rien.
Ah, mais Benoît, il dit déjà, il va falloir la retrouver. Donne-lui des indices.
Aurélie Sada, je crois, la chanteuse. Et bref, en fait, c'est au moment où, bah voilà, où elle aussi, elle cherchait à concevoir et à avoir un enfant. Mmh. Et puis, bah, ça a été compliqué. Et donc, elle parle en fait, elle parle de son cycle et des difficultés à avoir un enfant. Et c'est tellement proche de ce qu'on vit, enfin c'est tellement ouais. Exactement, je trouve, ce que je ressentais que c'était voilà.
Bouleversant.
Quand j'avais besoin de pleurer un peu, bah, c'était ma chanson. Ça faisait du bien.
D'ailleurs, sur le fait de pleurer, ouais. Je peux raconter une anecdote qui ça ah ouais. Me fait marrer, mais parce que là, à la suite du deuxième transfert qui a échoué, j'ai été énormément triste, évidemment. Et à un moment donné, j'appelle la psychologue. Forcément, je pouvais pas la voir en vrai avec le corona. Et du coup, elle me dit, mais Elise, est-ce que vous vous laissez pleurer un peu? Vous vous laissez souffrir, quoi? Puis c'est là que j'expliquais, je dis, bah, j'ose pas me plaindre, j'ai pas envie d'embêter les gens en disant que je suis triste et tout ça. Donc elle me dit, bah, vous avez tous les droits de dire que vous êtes triste et c'est aux gens en face de
bien
vous
sûr.
De gérer l'accueil de ça, quoi. Mais vous mm-hmm. pouvez pas tout contrôler, quoi. Puis je lui dis, ouais, mais un autre problème aussi, c'est que dès que je pleure, après, j'ai une migraine. Pendant toute une
ah
journée,
bon
quoi.
Sérieux?
Bah, je pense parce que je crispe, je sais pas. Mais ça me donne toujours mal à la tête de pleurer, quoi. Et du coup, elle me dit, bah, wow. Dans ce cas-là, dès que vous sentez que vous allez pleurer, vous avalez un Nurofen et vous vous laissez pleurer. Je dis, mais on ne peut pas prescrire ça, c'est pas possible. Et elle dit, si, vous le faites, hein, vraiment, quoi. Du coup, maintenant, des fois, je dis à Benoît, je dis, oh là là, j'ai envie de pleurer. Puis Benoît, il dit, ah, tu veux que j'aille te chercher un Nurofen? Du coup, ça me fait rire.
Et du coup, plus envie de pleurer.
Ah, c'est un bon traitement, ça aussi.
Voilà, pas mal. L'anecdote.
Super. Bon, mais écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les deux, vraiment. C'était super sympa de découvrir votre parcours. On aura bien entendu plaisir à suivre la suite. S'il vous plaît, tenez-moi au courant, je pourrai partager la suite. Avant de nous quitter, est-ce que l'un et l'autre, vous auriez un conseil à vous donner à vous-même il y a 2 ans en début de parcours?
Moi, ce que je pourrais dire... À moi-même, je me dirais d'être gentille avec moi-même, d'accepter, de m'autoriser à avoir mal, physiquement et moralement, et de m'autoriser à le dire. Vraiment, je crois que c'est le plus important. Et aussi d'apprendre à mieux formuler mes besoins dans le calme avant la tempête, en fait. Mmh. De préparer en amont, par exemple, de dire à Benoît, voilà, je vais vivre tel moment et je vais avoir besoin de ça de ta part. C'est comme ça, si vraiment tu veux m'apporter du soutien, c'est comme ça que tu vas le faire au mieux, quoi. Et vraiment exprimer ouais. ça clairement. Je pense que, ouais, c'est vraiment la chose la plus importante que je dirais à nous d'il y a 2 ans.
Ah, à nous.
Super. Ouais. Et toi, Benoît?
Bah, moi, je me dirais à moi de mieux me préparer physiquement, par exemple, de tout faire pour bien préparer son corps, pour que tout soit le plus, d'avoir la meilleure santé possible pour pouvoir, de mettre toutes les chances de notre côté. Et puis aussi, de tout faire pour préparer je me conseillerais de tout faire pour préparer du coup les traitements, etc., les premières fives,
mm-hmm.
voilà, de d'essayer de comprendre au mieux, quoi, parce que c'est vrai que même si Lise m'avait prévenu, j'étais pas prêt, quoi. Donc voilà, et puis bah pour nous deux de s'entraider, de faire une équipe quoi. Voilà.
Parce qu'on a vachement mieux réussi à la deuxième FIV.
Ouais.
La deuxième FIV, on était vraiment connectés. C'était fluide quoi. Je ressentais ça. Je disais à Benoît, tiens, là il y a ça qui se passe. J'ai besoin de ça. Et Benoît, il avait tout de suite l'outil pour y répondre. Franchement, la deuxième FIV, elle s'est super bien passée quoi. Entre nous deux.
Ouais. Bon, super. Bah, écoutez, en tout cas, un immense merci vraiment à tous les deux d'avoir pris le temps de partager toute votre histoire. Je vous le disais, bien entendu, on vous souhaite plein de bonheur par la suite. Tenez-nous au courant de là où vous en serez. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt.
Bah, à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Et merci beaucoup de nous donner la parole aussi. Ça fait du bien d'avoir des espaces de parole comme ça.
Oui, merci.
Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.